Lorsque les médias évoquent l'Afghanistan, ils parlent rarement de la condition des femmes, encore moins de celles retenues en prison, le plus souvent pour des crimes qualifiés de « moraux ». Jeune photoreporter, Sonia Nodi a eu envie de s'intéresser à leur sort. Le résultat de son travail, une trentaine de photos dans l'univers pénitentiaire afghan. Parmi ces clichés, celui d'une femme défigurée qui semble vous interpeller.
Sahar, elle a 18 ans et elle a été brûlée à l'acide sur tout le corps. Elle a une histoire assez triste parce qu'elle a été brûlée par son amoureux. Mais en Afghanistan, on ne choisit pas son amoureux. Et donc son père avait choisi de la marier à un autre. Et l'amoureux n'a pas supporté, donc il a décidé de défigurer sa bien-aimée pour pas qu'elle se marie. Donc voilà, elle s'est retrouvée complètement défigurée. Et la police l'a récupérée. Et ne sachant que faire d'elle, puisqu'elle n'était plus sous l'autorité de son père, elle n'avait pas de mari. Donc ils l'ont mise en prison pour quelque temps, le temps de trouver une solution. Et puis une ONG, parce qu'il y a des ONG quand même très actives en Afghanistan, et qui est venue la récupérer pour l'amener à Kaboul et ensuite en Inde pour qu'elle subisse de la chirurgie esthétique. Voilà. Cette femme, elle est extrêmement courageuse. C'est impressionnant, elle est... Parce que bon, vous voyez, elle est quand même très défigurée. Et elle n'a que 18 ans, mais c'est vraiment c'est une héroïne pour moi. En tout cas, elle est extrêmement courageuse. Et elle mène un combat quand il y a des manifestations, par exemple, pour le droit des femmes à Kaboul. Elle est toujours en première ligne parce qu'elle elle veut que son expérience et sa mauvaise expérience, en tout cas, servent pour pas que ça se reproduise et pour surtout alerter l'Occident, qu'il y a toujours des violences faites aux femmes et que la situation des femmes en Afghanistan est toujours très critique, malgré plus de 10 ans de guerre et de... Voilà. En fait, moi, je suis anthropologue de formation et donc je faisais des recherches sur les femmes en prison, pas forcément en Afghanistan, donc j'ai travaillé au Brésil ou en Thaïlande, par exemple. Et j'ai été amenée à aller en Afghanistan un jour. Et puis j'ai rencontré ces femmes en tant que chercheur d'abord. Et puis petit à petit, moi je m'appuie beaucoup sur les photos en tant qu'anthropologue. Donc j'en fais beaucoup. Et donc petit à petit, j'ai glissé vers le photojournalisme. Et donc ça a donné ce reportage qui est un premier reportage.
Ça a été difficile de rentrer dans une prison où les femmes justement sont emprisonnées en Afghanistan.
Oui, c'est difficile. C'est un parcours administratif assez compliqué. Mmh. Mais après, rien n'est impossible avec un peu de temps. Et puis après, c'est surtout la négociation avec le directeur de la prison qui est extrêmement difficile parce que c'est lui qui décide au final, malgré toutes les autorisations, c'est lui qui va décider si on peut rentrer ou pas. Mais donc c'est difficile, oui, mais pas impossible.
Autre photo également qu'on peut retenir. Alors assez inhabituel en Afghanistan, une femme qui fume.
C'est sûr que c'est... Enfin, il y en a qui fument, hein, mais que ce soit montré, c'est très rare. D'autant plus que cette jeune fille, Jamila, elle est très jeune, elle sait pas son âge, mais elle a entre 15 ans et 20 ans, et elle n'est pas voilée. Et donc, la position qu'elle a sur la photo, c'est vraiment une position de défi. Elle regarde droit dans l'objectif, avec la cigarette qui fume dans sa main. Et donc, c'est une jeune fille très courageuse aussi, et qui refuse de se laisser impressionner, et qui pense qu'elle a des droits et elle les revendique. Et, que, voilà.
Et elle est en prison donc pour libertinage.
Oui, alors il y a plusieurs termes. En fait, elle est condamnée pour crime moral. C'est assez global, ça englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire ça peut être donc, le libertinage, l'adultère, mais aussi le fait de danser devant des hommes, par exemple. C'est un crime moral. De s'enfuir de chez soi pour ne pas se marier. C'est un crime moral très répandu, hein, puisque c'est le mariage arrangé en Afghanistan. Donc voilà, ça peut même être le mauvais caractère. Donc je ne sais pas si vous imaginez, une femme qui a mauvais caractère peut aussi être en prison. C'est des termes génériques, mais Cette jeune fille est là pour ça, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi en fait, parce que c'est, enfin, comme elle m'avait dit, elle sait ni lire ni écrire, donc elle s'est retrouvée devant le tribunal, elle ne savait même pas pourquoi elle y était, et puis ils lui ont fait signer un papier, mais comme elle ne sait pas lire, elle ne sait même pas à combien de temps elle est condamnée, puisque elle a aucune idée de, donc elle a cru comprendre que c'était pour libertinage, mais elle ne sait même pas vraiment, donc voilà. Il y a certaines prisons qui sont plutôt correctes, on va dire, parce qu'elles ont été reconstruites par les Nations Unies depuis quelques années. Mais il y a aussi beaucoup d'autres prisons, comme la prison de Jamila à Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, où c'est vraiment des conditions d'hygiène terribles. Elles sont toutes malades, les enfants aussi. Il y a les enfants qui meurent, des bébés qui meurent dans cette prison. Et donc, voilà, il y a quand même la promiscuité. Et donc c'est des conditions d'incarcération qui sont très difficiles, notamment à Mazar-e-Sharif.
Alors il y a quand même une autre photo qui nous marque, c'est qu'on en voit une, là par exemple, une femme avec ses enfants. Elles sont emprisonnées avec leurs enfants.
Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont emprisonnées avec leurs enfants, surtout parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent en prison, puisque les femmes se retrouvent en prison souvent après avoir fui leur domicile conjugal. Et elles sont enceintes, donc du coup elles se retrouvent à accoucher en prison et elles peuvent garder leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 ans dans la prison. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont reniées par leur famille suite à un déshonneur commis, enfin un crime quel qu'il soit, hein, ça peut être le meurtre, le crime moral, n'importe. Ça a déshonoré la famille et donc parfois la famille ne veut même plus entendre parler des enfants et donc la mère se retrouve en prison avec... le nombre d'enfants qu'elle a, donc ça peut aller de 1 à 6 ou 7. Et voilà. Enfin, il y a beaucoup d'enfants dans les prisons afghanes.
Alors, beaucoup d'enfants, et puis ensuite, quand on chemine dans ces photos, alors on voit une image que malheureusement on a dans l'imaginaire collectif de l'Afghanistan, ces femmes avec leur burqa. Que font-elles? Elles sont en prison comme cela ou elles sont sorties là?
En fait, sur cette photo, elles sont sorties, elles sont libres. La plupart du temps, elles se retrouvent dans des foyers tenus par des ONG qui les recueillent parce qu'elles n'ont nulle part où aller après la prison. Elles ont été. Voilà, elles n'ont plus de famille, elles n'ont plus rien. Donc elles se retrouvent dans des foyers pour se reconstruire psychologiquement, pour éventuellement être formées professionnellement, et puis pour commencer une autre vie, mais une autre vie, on va dire, clandestine, puisque, comme je disais, il y a beaucoup de femmes qui risquent d'être tuées par leur famille pour rétablir l'honneur. Et donc elles sont plus ou moins condamnées à être anonyme et donc à porter la burqa, mais comme beaucoup de femmes en Afghanistan finalement. Hein. Mais c'est vrai qu'elles elles vivent dans des lieux secrets et elles ne sortent qu'en burqa. Et c'est vrai que c'est une image qu'on connaît beaucoup de l'Afghanistan, mais c'est aussi une réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de femmes qui portent la burqa, moins dans les villes, mais dans les campagnes ça n'a pas beaucoup changé. Et donc voilà, donc la burqa les protège aussi d'une certaine vendetta contre elles.
Comment vous ressortez-vous d'un tel reportage photographique? Est-ce qu'on a envie de faire plus que de témoigner, essayer d'aider davantage?
Ah bah bien sûr, on a envie de faire plus. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec toutes ces femmes. C'est sûr qu'elles m'ont donné beaucoup et elles m'ont confié leur histoire. Donc, bien sûr que j'ai envie de les aider. Après, il y en a beaucoup, donc je ne peux pas les aider une par une. Il y a environ 3000 femmes prisonnières en Afghanistan. Donc c'est difficile. Après, moi, ce qu'elles m'ont toutes demandé, c'est vraiment de montrer ces photos en Occident pour qu'on sache ce qui se passe en Afghanistan. Et ce qu'elles ont assez conscience que de l'Afghanistan, on ne parle que de la guerre, ou que des militaires en tout cas, et très peu finalement de la population civile. Et donc elles veulent vraiment que, voilà, y ait une prise de conscience de leur situation, qu'elles sont la plupart... bouc émissaire d'un système machiste, on va dire, voilà, et qu'elles subissent complètement et que voilà, elles veulent vraiment témoigner de ce qui se passe pour elles.
Est-ce que vous, justement, après avoir vu cette situation et après avoir entendu ces témoignages, après avoir échangé avec elles, vous êtes optimiste? Est-ce qu'on peut arriver à changer cette société?
Optimiste, pas tellement. J'espère qu'ils y arriveront, parce qu'il n'y a que eux qui c'est leur société, leur culture. Je pense que eux qui peuvent y arriver. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans en Afghanistan. Je vous avoue que j'ai plutôt vu un déclin de la situation des femmes plutôt qu'une amélioration. Il y a un gros problème de corruption en Afghanistan. Et donc, les femmes font souvent les frais, notamment dans la justice, de cette corruption masculine. Donc, moi, franchement, je ne suis pas très optimiste pour la suite. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui pourront faire qu'il y a quelque chose qui va changer un jour. Mais il y en a qui commencent, mais au péril de leur vie, parce qu'il y a des femmes qui sont très engagées dans la vie politique notamment, mais voilà, elles subissent des menaces de mort tout le temps, mais il y a des femmes qui agissent, mais c'est encore difficile.
Alors c'est un sujet très fort, vous en tant que photojournaliste, c'est votre premier reportage, vous avez envie de continuer à pouvoir témoigner de ces différentes situations qui existent aujourd'hui dans le monde, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes.
Ah oui, c'est un travail, comme vous disiez, qui est marquant hein, pour moi, mais aussi tellement enrichissant. J'ai rencontré vraiment que des femmes courageuses, et c'était vraiment extrêmement enrichissant, même si c'était dur. Et donc oui, évidemment, j'ai envie de continuer. Alors peut-être pas forcément que sur les prisons, mais c'est vrai qu'il y a dans de nombreux pays, il y a des combats de femmes qui sont menés. Et c'est, enfin, pour moi, c'est extrêmement intéressant.
Le reportage de Sonia Naudi est actuellement visible au siège du Crédit Agricole de Ploufragan, tout comme celui de Franck Vogel, qui a passé 3 mois en Afrique pour livrer son sujet intitulé « L'eau du Nil, partage ou guerre ». Long de 6500 km, ce fleuve est le plus long du monde. Il est surtout synonyme de survie pour les 11 pays qu'il traverse, mais il fait aussi l'objet de vives tensions que le photographe a su parfaitement capter.
Moi, j'ai ciblé l'Éthiopie, qui est la source du Nil bleu. Donc, le Nil bleu se rejoint avec le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil. Et en fait, donc l'Éthiopie était importante parce que c'était une des sources du Nil, c'est 80% de l'eau. Deuxième point important, c'est que l'Éthiopie a signé un contre-accord avec des accords qui datent de fin des années 50. L'Égypte possédait quasiment toute l'eau, alors que l'eau ne vient pas de chez eux. En gros, ils s'accaparent toute l'eau de tous les pays et il n'y a qu'un droit de veto sur tous les barrages ou quoi que ce soit des autres pays. Donc en fait, ils se sont dit « c'est pas possible, nous on a besoin de s'en développer ». Et en 2010, il y a un contre-accord qui a été signé, mené par l'Éthiopie. Donc tous les pays du Sud ont signé cet accord. Donc l'Éthiopie, c'était vraiment important. Et en plus, ils ont créé leur premier barrage. Enfin, ils sont en train de construire ça sera le plus grand barrage d'Afrique hydroélectrique, et qui impactera quand même l'Égypte. Donc là, il y a les tensions qui commencent à monter. L'Égypte dit, de toute façon, nous, on peut rentrer en guerre pour l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau, il n'y a rien chez nous. Et l'Éthiopie dit, on a besoin de développer. Et voilà, donc en gros, le barrage est en construction. D'après des études, enfin, c'est un peu compliqué encore, mais s'ils font remplir leur lac de rétention en 10 ans, l'Égypte va perdre 10% d'eau. Déjà, il y a une gestion catastrophique de l'eau en Égypte, mais vraiment catastrophique. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est juste l'horreur. Tout est déversé dans le Nil, tout. Tout, tout, tout. Donc en fait, avec 10% d'eau en moins, avec une gestion comme ça, ça risque de devenir invivable. Donc voilà. Donc l'Égypte, l'Éthiopie, les deux, voilà. Ensuite, l'Égypte, c'était aussi parce qu'il y a eu un changement de... Moi, j'y étais juste entre les deux tours présidentiels, voilà. Donc les frères musulmans ont été élus. Dans l'entre-deux tours, c'était en gros, quand moi j'y étais, c'était soit on revenait au premier ministre de Moubarak, qui était au deuxième tour, et les frères musulmans. Et donc les révolutionnaires se sont fait avoir complètement dans l'histoire parce que leur candidat arrivait troisième, à très peu de voix. Donc ils se sont un peu fait avoir, ils se sont un peu fait voler leur révolution. Donc tension là-dessus, les révolutions, enfin voilà. Donc en fait, pour moi, c'était important d'avoir ces deux pays. Et le troisième pays, c'était le Sud-Soudan. Alors pourquoi le Sud-Soudan ? Le Sud-Soudan est né l'année dernière, en juillet 2011, et suite à 25 années de guerre civile avec le Soudan, en fait, ça faisait partie du Soudan. Et en gros, c'est lié à l'eau. Très peu de gens le savent, mais en fait, c'est parti d'un canal que le Soudan était en train de construire, et en fait, qui court-circuitait une zone marécageuse où vivaient un peu plus d'un million de personnes. Et donc, ces personnes... Enfin, les Dinka, c'est la tribu de cette zone-là qui est majoritaire, s'est rebellée, a pris en otage, c'était une entreprise française qui était en train de construire ce canal, a pris en otage les Français, Et après, il y a des pilonnages de l'armée soudanaise. Enfin, voilà. Et là, ils sont battus, donc 25 années de guerre, pour essayer de qu'on leur prenne pas l'eau, au final, pour qu'ils puissent vivre. Et après 25 années de guerre, ils ont réussi à devenir indépendants. Bon, au final, c'est une bonne fin pour eux. Ils sont très contents, ils ont leur pays. Mais maintenant, il y a plein de problèmes aussi. Enfin, il faut imaginer un nouveau pays qui se crée. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de structure. Enfin, et là, l'armée n'est pas payée. Donc, c'est très compliqué aussi. Donc, en fait, je voulais montrer tout cet embroglio un peu complexe. C'est vraiment complexe. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a d'autres éléments en plus, mais rien que ça, c'est énorme, quoi.
Le Nil, guerre ou partage de l'eau, c'est l'exposition que vous présentez, Franck Vogel. 42 photos grand format, 10 autres un peu plus petites, avec bien sûr des images, des photos assez parlantes et assez marquantes. Il y en a une en face de nous, elle est au Soudan du Sud, c'est une grosse machine face à nous. Expliquez-nous.
Alors là, on est devant l'image, devant la Sarah. Elle s'appelle Sarah, elle a été, on lui a donné un petit prénom. C'était la plus grande machine au monde à l'époque, et elle servait donc à construire, à creuser ce canal, le canal de Djunglé, qui allait donc couper l'eau à plus d'un million de personnes en faisant ce canal. Et pour moi, elle est emblématique. C'est en gros, c'est cette machine qui symbolise le début de 25 années de guerre et donc de l'indépendance du pays l'année dernière. C'est une machine qui est juste gigantesque. Elle consomme, juste pour vous donner un ordre d'idée, 38 000 litres de gazole par tranche de 24 heures. Donc il fallait acheminer. Là, on est dans un no man's land. Hein. Enfin, il faut bien se rendre compte de ça. Voilà. Donc pour moi, c'est emblématique, quoi. C'est la première guerre de l'eau sur une île. Bah, c'était là.
Autre photo que nous pouvons voir dans votre exposition, Franck Vogel. Cette fois-ci, nous sommes en Éthiopie. On a l'impression d'une photo surréaliste.
Oui, alors l'Éthiopie, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin d'argent pour financer son barrage du millénaire, son chef-d'œuvre sur le Nil, pour créer l'électricité, et voilà. Et donc, comme la Banque mondiale a refusé de financer, ils sont obligés de trouver de l'argent. Ça, c'est lié à l'Égypte. Hein. La Banque mondiale a refusé pour éviter d'avoir des soucis avec l'Égypte. Voilà. Donc en gros, déjà, ils ont pris un mois de salaire à tous les fonctionnaires, sans contrepartie. Et s'ils en ont besoin, ils reprendront. Enfin, voilà, c'est un régime totalitaire, hein, faut le savoir. Et beaucoup de terres ont été louées à des entreprises agro, en général, à travers le monde. Donc là, cette photo, c'est une entreprise indienne qui s'appelle Karaturi. C'est un énorme conglomérat. Et là, c'est 100 000 hectares de terres qui ont été louées. Et la plupart de ces terres sont dans le parc naturel de Gambela. Donc une zone normalement qui est préservée. Et là, sur cette image, ils rasent la forêt, ils rasent donc toutes les espèces qui y vivaient. Bah, certaines seront amenées à disparaître, clairement. Ils prélèvent dans un affluent du Nil, ils pompent à tout va. Ils mettent des pesticides, des fongicides, enfin tout ce qu'il faut pour que ça pousse et pour que voilà. Et donc ils ont loué ces terres pour entre 50 et 100 ans. Donc les personnes, ils étaient de se battre, les locaux. Sauf que après 50-100 ans, on détruit une terre, quoi. Qui était une terre fertile, il y a des petites cultures, pas grand-chose, à côté du parc naturel, mais là, c'est grande échelle, quoi. Là, vous voyez les bulldozers, il reste un arbre, je ne sais même pas s'il va rester celui-là, enfin bon, voilà, c'est dramatique, quoi.
Et alors, c'est tellement dramatique qu'on a une photo juste à côté qui montre justement le désastre humain également.
Oui, en fait, donc les gens qui habitent dans cette région, il n'y a plus vraiment de travail. Ils ont perdu leurs terres. Il faut savoir qu'en Éthiopie, on ne possède pas les terres. On n'est jamais propriétaire, jamais. C'est l'État. Ça appartient tout à l'État. Donc, en gros, ils peuvent donner ces terres. Enfin, voilà. Si eux, ils donnent de l'argent, enfin, voilà. Donc, en gros, lui, qu'on voit sur l'image, En fait, il y a les larmes qui lui montent aux yeux. Parce qu'en fait, il est en train de protéger. C'est le gardien d'une pompe qui vient pomper dans le Nil pour cette ferme. Et il dit, mais mes enfants, qu'est-ce que je leur lègue, moi? Je leur lègue une terre qui n'est plus à nous, mais en même temps, je suis obligé de travailler pour faire manger mes enfants. Donc, il est dans un dilemme très compliqué, et quand il en parle, il a envie de se cacher, en fait. Il n'a pas envie de... Enfin, c'est très dur. Donc, au final, l'Éthiopie, ils disent, oui, on veut se développer, on veut se développer, on veut se développer. On veut vendre de l'électricité. Enfin, l'image juste au-dessus, quasiment toutes les centrales hydroélectriques éthiopiennes, l'électricité, est vendu à l'étranger déjà. Là, on voit à l'image, les pauvres gens, ben, y a les lignes à haute tension qui passent. Ils n'ont pas un kilowatt d'électricité de leur vie, quoi. Donc, il y a Addis Abeba, la capitale, voilà. Mais une fois que ça, c'est alimenté, ben, tout le reste, ils s'en foutent. C'est un régime autoritaire. Donc, l'humain, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Donc, c'est dur. C'est quelque chose de très compliqué, enfin, pour les gens, enfin... Ils disent oui, c'est bien, il faut que le pays se développe. Et en même temps, regardez où on vit, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, ils ne nous considèrent pas.
Nous étions tout à l'heure au Soudan du Sud. Nous avons enchaîné avec l'Éthiopie. Cette fois-ci, on remonte un petit peu. En Égypte, alors là, avec une photo également assez impressionnante. On a l'impression de disque vinyle face à nous. C'est quoi exactement ?
C'est vrai que ça ressemble à des disques vinyles, mais il faut s'imaginer qu'on est à 8000 ou 10 000 mètres d'altitude. Et en fait, c'est des champs. On est en plein milieu du désert. Il fait 65 degrés. Donc, on cuit. Et en fait, le Moubarak, à l'époque, c'était son grand projet. Il voulait reverdir, il voulait créer une deuxième vallée verte sur le Nil. Donc, il y a bien sûr le delta du Nil, voilà, que tout le monde connaît. Et il voulait recréer une deuxième vallée. Et donc, il a entamé la construction d'un canal qui relie donc le Nil au niveau du lac Nasser, lac de rétention lié au barrage d'Assouan, qui allait aller dans la vallée de Toshka. Et donc ils ont creusé c'était le gros projet, donc creuser le canal. L'Arabie Saoudite a aidé en partie. Il y a une ville qui a été plus ou moins construite, petite ville, et des écoles. Enfin, tout était censé repartir, quoi. Sauf que c'est un fiasco complet. Il y a eu un manque d'argent aussi. Enfin voilà, c'est un fiasco complet. Et les seuls chose qu'on voit actuellement, c'est 4 fermes étrangères, Arabie Saoudite principalement, dont une appartient au prince héritier d'Arabie Saoudite. Et donc c'est des fermes de pareil, entre 50 et 100 000 hectares en fonction de la ferme. Et donc ils vont prélever de l'eau, donc de ce canal qui vient du Nil bien sûr, et là l'eau est assez propre, et ils vont irriguer 24 heures sur 24 le désert, avec ce qu'il faut dans l'eau, quoi. Ils rajoutent des nutriments, enfin tout ce qu'il faut pour faire pousser quelque chose dans du sable. Donc ils font pousser, là sur l'image, en fait c'est des disques qui font environ 500 mètres de diamètre. Et c'est un arrosage par pivot central. Donc il y a un pivot central avec, là sur l'autre image on voit un peu, c'est en gros c'est une grande tige avec des roues qui tournent autour d'un axe central et qui va arroser la zone. Et c'est pour ça que ça forme un disque vert au milieu du désert qui est jaune, quoi. Donc voilà, et en gros, toute cette eau est prélevée dans l'eau du Nil, et la production de ces fermes, quasiment rien ne va à l'Égypte. Donc ça, c'est dramatique, quoi, parce que l'Égypte va pas bien suite à la révolution. Enfin, c'est très compliqué, il n'y a plus de tourisme, donc voilà. Et là, bah, c'est du business pur et simple. Ils donnent sûrement quelque chose de taxe à l'État. Mais au final, la nourriture, c'est pas pour les Égyptiens, quoi. Donc là, on voit le trèfle en haut. Le trèfle, c'est dessiné aux chevaux des pays du Golfe. Les purs sang arabes, enfin voilà. Mais pas pour les animaux égyptiens. Il y a des cultures de vignes, de raisins. C'est pour le marché européen. C'est pas pour l'Égypte. Et enfin, bon, voilà. Donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres qui sont impliqués. La Chine est en train de s'implanter aussi de plus en plus, pas trop en Égypte, mais en Éthiopie, mais enfin dans toute l'Afrique, ils sont en train de devenir en puissance et ils s'accaparent, ils construisent les routes, donc en gros pour bien se faire voir, pour aller marcher derrière, pour avoir des terres, donc ils achètent aussi des terres, enfin ils louent des terres ou ils achètent, ils font beaucoup beaucoup de cadeaux, et c'est au final c'est du néocolonialisme qui est en train de se passer, quoi. Voilà.
Les expositions de Franck Vogel et Sonia Naudy sont à voir en ce moment et jusqu'au 11 novembre dans le cadre du festival photo-reporter dans l'agglomération de Saint-Brieuc.